Culture, les enjeux, Julie Gacon.
Quand Paris-Lille est plus rapide que Paris-Banlieue, n'oubliez pas de vous munir de votre parapluie si vous prenez le RERB aujourd'hui, il pleut dans les rames. Le RERB, c'est pour tester jusqu'où la patience humaine peut aller. Voilà un rapide florilège de ce qu'on a pu lire ces dernières heures sur les réseaux sociaux au sujet du RERB qui traverse l'agglomération parisienne du nord-est au sud-ouest et dont les usagers ont pour beaucoup choisi de tourner en dérision leurs problèmes, retards et même malaises récurrents sur leur ligne. C'était le cas encore avant-hier. Par exemple, sur le cas de Châtelet-Léal, on serait cru dans un roman de René Fallet, dans une chaleur suffocante, les cravates poissaient sous des faces lunaires de pendus, un piston projetait des giclées d'hommes et de femmes dans la gueule grise du métro, la multitude fusait en tous sens, évoquant tout un Charleston de spermatozoïdes pressés de faire mouche. Alors bien sûr, un message nous avait prévenu, plusieurs centaines que nous étions sur le quai de Châtelet-Léal, une panne de signalisation occasionnait de grosses perturbations de trafic. Cela fait des années que ça dure pour le million de passagers quotidiens, des années que la modernisation promise des lignes et des trains est reportée. Alors saura-t-on régler la crise du RERB ? Bonjour Geneviève Zambry-Marie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en studio. Vous êtes professeure en aménagement et urbanisme de l'université de Cergy, Paris Université, dont je viens d'apprendre qu'on disait maintenant CY. Voilà, alors pour prendre un peu de recul, Geneviève Zambry-Marie, et comprendre comment, au fil des années, depuis sa naissance en 1977, la ligne B s'est trouvée de plus en plus bondée jusqu'à être surchargée. Il faut peut-être d'abord revenir sur son tracé et la façon dont la métropole s'est construite autour du RERB et non l'inverse, à part peut-être l'aéroport de Roissy qui existait déjà depuis 1974.
Alors, la ligne du RERB, en fait, a été planifiée dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de 1965. Donc, c'est quand même une histoire assez ancienne. C'est une ligne, donc, qui, comme vous l'avez souligné, a été mise en service en 1977. Et autour de laquelle, donc, se sont progressivement, développés des projets d'urbanisme. Alors, parfois autour des gares, parfois plus loin, avec des systèmes de rabattement en bus, donc vers les stations du RERB, mais aussi de grands pôles d'aménagement, en particulier à partir des années 2000. Alors pour citer quelques exemples, on a notamment la zone d'emploi de l'aéroport Charles de Gaulle-Étoile, dont les emplois se sont en particulier créés avant les années 2000, mais aussi en nombre important entre 2000 et 2010.
Vous voulez dire des nouveaux bureaux ?
Voilà, des projets de bureaux, notamment des zones logistiques, qui ont accompagné le développement de l'aéroport. On a aussi, bien sûr, la plaine Saint-Denis, qui est une grande zone de régénération urbaine, donc sur des territoires autrefois industrialisés et donc abandonnés progressivement par le départ des industries des métropoles et des villes, avec des projets donc de ZAC, zone d'aménagement concertée, à proximité de la ligne B du RER, donc qui là encore ont permis la construction d'environ 500 000 m² de bureaux, et c'est pas terminé, plusieurs aussi centaines de logements. Et puis enfin, le plateau de Saclay. Le plateau de Saclay, donc, qui, à partir des années 2000, a vu s'y regrouper de nombreux établissements d'enseignement supérieur. Donc, on a l'école polytechnique, on a l'université Paris-Saclay, on a l'école centrale, diverses écoles d'ingénieurs, ce qui représente à peu près aujourd'hui 500 000 m², là encore, d'équipements, de locaux, de logements, etc. Et puis, on a aussi, bien sûr, des laboratoires de recherche privés et publics qui viennent se greffer sur ce pôle scientifique de renommée internationale. Et à l'heure actuelle, donc encore à peu près 500 000 m² de développement urbain sous forme de logements, d'équipements collectifs, d'équipements de formation qui sont prévus, qui sont déjà en construction ou en cours d'études.
Alors, et comme en plus c'est une ligne qui permet de faire du déplacement de banlieue à banlieue et que, bien sûr, pour tous ceux et celles qui vivent en banlieue et qui parfois travaillent dans une autre banlieue, c'est des trajets quotidiens, donc forcément cette ligne est arrivée assez vite à saturation. Est-ce qu'elle a bénéficié de travaux de maintenance, notamment depuis 1977? Parce que quand on lit ce que les usagers en pensent, on a l'impression que vraiment depuis 1977, il ne s'est jamais rien passé.
Alors c'est vrai que la ligne B a atteint un niveau de trafic élevé, très élevé, donc qui est imputable à l'augmentation généralisée du trafic en Île-de-France, bien évidemment, aux déplacements de banlieue à banlieue qui doivent se faire en passant par Châtelet-Léal, sachant qu'il n'y a pas encore de réseau donc de rocade donc périphérique, donc ce qui sera le cas avec le Grand Paris Express.
Donc au centre de Paris, Châtelet-Léal.
Voilà, mais... donc voilà, ça fait que beaucoup de voyageurs doivent passer par le centre de Paris encore aujourd'hui. Et puis il y a ces pôles de développement, ces pôles d'aménagement qui ont été construits, qui donc génèrent bien évidemment des milliers, voire des dizaines de milliers de voyageurs supplémentaires, notamment aux heures de pointe, quand il s'agit d'un trafic lié soit au pôle de formation, soit au pôle d'emploi. Voilà. Donc cette ligne connaît une saturation depuis de nombreuses années. Et notamment Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice des transports donc de la région Île-de-France, indique que la ligne B deviendra dans quelques années la ligne la plus fréquentée du réseau. Hein, sachant qu'elle est aujourd'hui donc derrière la ligne A du RER qui est elle aussi particulièrement fréquentée. Donc une ligne très fréquentée qui a connu un certain nombre donc de développements techniques censés donc améliorer la circulation des trains, améliorer la régulation des trains, diminuer les retards, voilà, donc un certain nombre d'améliorations donc qui notamment par exemple avec la construction du tunnel donc pour le RERD dans le centre de Paris, mais à l'heure d'aujourd'hui, il est vrai que on parle d'évolutions techniques d'envergure très coûteuses, plus importantes qui sont elles aussi ou retardées ou remises en question.
Lesquelles, par exemple? Alors, il y a certains RER, je crois que c'est le A, bénéficie de ce qu'on appelle le SACEM, c'est le système d'aide à la conduite, à l'exploitation et à la maintenance pour réguler la circulation des trains. C'est un système de pilotage automatique. Pourquoi le RER B n'en bénéficie pas aujourd'hui?
Alors, déjà, pour préciser, on parle pour le RER B du système Nexteo, qui est un système d'exploitation des trains dont l'objectif est de remplacer l'espacement qui peut exister entre les trains donc en circulation. Donc un espacement qui est habituellement fixe et qui doit respecter des règles de sécurité d'espacement entre les trains, qui est aussi adapté à la vitesse des trains. Donc plus les trains circulent vite, plus l'espacement est important. Donc l'idée de Nexteo, c'est de remplacer cet espacement fixe entre les trains par un espacement mobile qui va être calculé donc par un système d'informatique embarqué, donc en temps réel, selon la vitesse du train, selon les conditions de sécurité, les conditions de circulation. Voilà. Donc ce système permet en fait notamment sur le RER B, permettrait de faire circuler davantage de trains, on parle de 32 trains à la place de 29, et aussi donc
Mais parce que pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, ces travaux-là sont aussi reportés.
Alors, c'est pour Nexteo, en fait, SNCF Réseau, qui est détentrice des infrastructures ferroviaires de la ligne B, donc a indiqué que pour le moment elle reportait sine die la mise au point de ce système et sa mise en œuvre, son installation, notamment pour des raisons techniques et aussi parce que c'est particulièrement coûteux.
SNCF Réseau, à qui l'on reproche aujourd'hui de mettre beaucoup d'argent sur les lignes de TGV et pas sur les lignes de ces petits trains ou ces trains de banlieue, le RERB. Peut-être une solution qui paraît beaucoup plus basique, mais le RERC, par exemple, qui circule juste devant la maison de la radio, il est à deux étages, enfin à étage en tout cas. Pourquoi dans le RERB, on n'a pas de wagons à étage? Ce sont les tunnels qui ont été construits comme ça et on peut plus du tout installer de trains à étage?
Alors, les trains à étage, en fait, on les considère comme permettant d'acheminer davantage de voyageurs, donc à hauteur de 30% de voyageurs supplémentaires par rapport à un train à un étage. Et donc, c'est un projet donc qui est dans les cartons depuis plusieurs années, qui est a priori prévu dont la mise en œuvre est prévue pour 2025. Mais ça nécessite en effet des travaux d'adaptation. Donc il faut adapter la hauteur des quais, il faut adapter la hauteur des caténaires. Donc il y a différents travaux importants d'infrastructures ferroviaires à réaliser, eux aussi coûteux, qui peuvent aussi gêner la circulation quotidienne des voyageurs avant la mise en service de ces rames à double étage. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc on sait que Alstom a annoncé un retard d'un an pour leur livraison.
Alors, certaines causes sont plus conjoncturelles. Actuellement, la ligne du RER B pâtit beaucoup de travaux, du train Charles de Gaulle Express qui doit relier la gare de l'Est à l'aéroport de Roissy en 20 minutes au lieu de 50 aujourd'hui dans le pire des cas, et ce dès 2027. Mais quel rapport, puisque le Charles de Gaulle Express, sur la majeure partie du parcours, il doit emprunter les voies parallèles à celles du RER B, dévolues au transport de fret et au TER Paris-Laon. Pourquoi est-ce qu'il y a comme ça des incidences sur le trafic du RER B?
Alors, il y a des incidences notamment en raison des travaux, puisque sur les 2,2 milliards d'euros dépensés pour le Charles de Gaulle Express, un peu plus de 500 millions sont prévus pour l'amélioration de l'infrastructure ferroviaire du RER B, puisque le Charles de Gaulle Express va devoir emprunter deux voies actuellement utilisées également par le RER B et aussi par d'autres, par des transiliens ou par des trains de fret. Donc ça génère évidemment des fermetures le soir et le week-end pour réaliser ces travaux qui sont quand même importants. Donc ce sont des améliorations dont pourra bénéficier la ligne B du RER ultérieurement, une fois que le Charles de Gaulle Express aura été mis en service. Donc ce qui, pour l'instant, on a une date prévue, mais voilà, on n'est pas forcément certain qu'elle soit tenue comme pour tous les grands projets d'infrastructure. Et la question en revanche qui se pose, c'est aussi que le Charles de Gaulle Express circulera sur donc deux voies occupées actuellement par le RB, ce qui peut poser la question d'une réduction de la capacité dédiée au RER B.
Voilà. Donc en attendant, les voyageurs de la ligne du RER B pâtissent de ces travaux au nom du confort des voyageurs de l'aéroport, des futurs voyageurs de l'aéroport qui par ailleurs devront payer plus de 40 euros je crois pour prendre le Charles de Gaulle Express et se rendre à l'aéroport. Ouais, oui, alors peut-être sur le profiter de votre qualité de professeur en aménagement et urbanisme pour expliquer pourquoi le développement urbain et le développement des transports ici en Ile-de-France, mais c'est le cas évidemment partout, ne se fait pas nécessairement en cohérence. Pourquoi est-ce qu'on ne les imagine pas ensemble pour que les transports ensuite servent le plus grand nombre?
Alors, si on fait un peu d'histoire, la planification régionale a surtout porté sur de la programmation d'infrastructures ou d'équipements dans les années 1980-1990 et beaucoup moins depuis. Voilà. Donc on s'intéresse un peu moins à la localisation précise des infrastructures. On va s'intéresser davantage à des enjeux comme le développement durable, la limitation de l'artificialisation des sols, la limitation de l'étalement urbain.
Bon, ce qui est important, par ailleurs.
Qui est particulièrement important, bien évidemment. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les projets d'aménagement ou d'équipement collectif, de logement ou de bureaux, ont aussi la particularité d'être réalisés et livrés plus rapidement que les infrastructures de transport, sont des projets, des méga-projets beaucoup plus complexes, surtout en milieu urbain, quand parfois il faut creuser en sous-sol parce qu'il n'y a pas d'espace pour réaliser un projet. Ce sont aussi donc les projets d'aménagement, des projets moins coûteux que des projets d'infrastructures de transport. Donc voilà, il y a plus de disponibilité financière. Et puis aussi, ce sont des projets qui peuvent réunir moins d'acteurs ou être parfois confié donc par la voie de concession ou d'autres contrats à des aménageurs ou promoteurs privés qui ont aussi donc des objectifs de respect de délais, etc.
Et donc, il y a souvent une décorrélation entre l'aménagement du territoire et l'aménagement des transports. Et on verra, en ce qui concerne le RER B, les conséquences sur les Jeux Olympiques et la fréquentation des Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis, puisque le Charles de Gaulle Express, qui devait soulager un petit peu le transport des passagers, n'entrera en fonction qu'après les JO en 2027 et que, a priori, peu de choses ont été anticipées là-dessus. C'est encore un reproche qui est formulé aux décideurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, jeune Geneviève Zambry-Marie. Je rappelle que vous êtes professeure en aménagement et urbanisme à l'université de Cergy, Paris Université CY. Voilà.